il y a ce petit frisson de fascination et d'effroi que j'éprouve parfois en utilisant certains outils informatiques. Des logiciels de transcription de texte, des chatbots qui répondent à des questions administratives, des outils de recherche, des applications de tri de photos, ils font tous appel à une forme d'intelligence artificielle. Mais il y a cette question lancinante, ce doute. Est-ce que l'intelligence artificielle est plus intelligente que moi ?
Ça dépend des domaines. Si vous essayez de jouer au Go avec une intelligence artificielle, vous n'avez pas la moindre chance. Si vous demandez à une intelligence artificielle de faire une émission intéressante dans laquelle vous passionnez les gens sur n'importe quel sujet de science, vous avez encore un avantage très certain. Et même sans être vraiment très précis sur ce qu'on entend par intelligence, la réponse c'est non. Mais le fait même que je sois là et qu'on en parle ensemble, c'est parce qu'il y a des progrès qui sont vraiment absolument incroyables depuis une quinzaine d'années, qui effectivement, même pour moi qui suis ça depuis 35 ans, je suis soufflé par les progrès et la vitesse à laquelle on va.
Microsciences, un podcast de la RTS. Bienvenue dans Microsciences, le podcast qui transforme les petits mystères technologiques en grandes réponses scientifiques et algorithmiques. Et je le trouve sympathique, mon interlocuteur. C'est Alexandre Pouget.
Je suis professeur ordinaire dans le département de neurosciences fondamentales à l'Université de Genève.
Et l'intelligence artificielle n'est pas non plus plus intelligente qu'Alexandre Pouget. Mais pour combien de temps encore ?
Je pense que c'est juste une question de décennies avant qu'elle soit plus intelligente que moi. Disons un siècle ou deux, ça me paraît une évidence. D'abord, il faudrait déterminer qu'est-ce que l'intelligence, mais surtout ce qu'il faut bien réaliser, c'est que la différence d'intelligence entre des êtres humains est minuscule par rapport à la différence d'intelligence entre nous et un singe, même le singe le plus intelligent qui soit. Le jour où on dépasse l'intelligence d'un être humain moyen, ça sera juste une question de quelques années de plus pour dépasser l'être humain le plus intelligent, parce qu'on aura fait pratiquement tout le parcours déjà. Une fois qu'on arrive à l'intelligence humaine, on dépassera tous les humains. Je sais que c'est pas facile de penser que la différence entre Einstein et Trump est absolument minuscule, mais elle est minuscule par rapport à la différence entre l'intelligence d'un être humain et d'un singe.
Tiens, c'est vrai ça. Avant de me poser la question de l'artificiel, il faudrait peut-être que je sache ce qu'est l'intelligence.
On met un peu tout dans le même sac. Moi-même, je le définis d'ailleurs le terme intelligence en disant que c'est juste un terme pour faire référence à toutes les fonctions qui sont contrôlées par le cerveau.
Ça fait un tas de trucs. Et un tas de trucs très différents. On peut vraiment mettre tout ce que fait le cerveau dans la catégorie intelligence.
Ce qui paraît un peu absurde parce que ça veut dire qu'on l'utiliserait pour parler du sentiment de la faim ou de la soif, qui est très simple, mais aussi parler des raisonnements mathématiques qui permettent de démontrer des théorèmes, ce qui paraît vraiment complètement absurde de les mettre dans le même sac. Mais quand on regarde les principes de calcul qui sont en jeu dans ce type de tâches, c'est toujours les mêmes. C'est ça qui est très surprenant. Il n'y a pas de changement dramatique dans la manière dont le cerveau calcule quand il essaie de déterminer si vous devez avoir soif ou quand il essaie de démontrer un théorème mathématique. Et c'est ça qui fait qu'on les regroupe tous sous le même terme.
L'intelligence, mon intelligence, serait donc des calculs que fait mon cerveau. Mais c'est marrant. Mon ordinateur, il fait des calculs aussi.
Exactement. C'est une idée qui existe depuis, je dirais, 70 ans à peu près, qu'on poursuit. Et puis, il y a une trentaine d'années, il y a eu des progrès déjà absolument extraordinaires dans la compréhension de ces principes et dans leur application sur les systèmes artificiels. Et aujourd'hui, c'est vraiment au cœur, effectivement, de l'intelligence artificielle moderne.
Et l'ordinateur, il calcule plus vite que moi.
Ça dépend du calcul. Il y a plein de calculs sur lesquels, aujourd'hui, quand vous allez dans un hôpital, il y a toujours un médecin. Il n'y a pas un système artificiel qui va déterminer quel est votre problème médical. Un, ça dépend du calcul. Et deux, la vitesse de calcul... C'est pas quelque chose qu'on considérait comme étant intelligent. Ça, c'est vraiment des problèmes d'ordinateur, de les construire pour qu'ils aillent. C'est vrai qu'on va plus vite, donc on a l'impression que c'est plus intelligent. Mais si le calcul lui-même n'a pas de valeur, s'il n'est pas profond, vous pouvez le faire aussi vite que vous voulez, ça changera rien, il sera toujours mauvais. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas tant la vitesse qui compte, c'est vraiment la qualité de l'algorithme qui est en jeu.
Ah, ça me rassure. Mais l'intelligence artificielle a une meilleure mémoire que moi, non ?
Déjà, il faudrait définir la mémoire.
Encore ?
Je je suis désolé, à chaque fois, je vais vous dire, il faut redéfinir le terme, mais la mémoire, il y en a différents types. On est un peu biaisé par la manière dont c'est fait dans un ordinateur. Dans un ordinateur, tout le monde est à peu près au courant, vous avez un disque dur et vous avez un, ce qu'on appelle en anglais un CPU, qui est vraiment la puce électronique qui fait les calculs. Et les deux sont séparés. Alors que dans le cerveau humain, dans les systèmes nerveux en général, mémoire et calcul sont en fait emmêlés et on peut pas vraiment dire ça c'est la mémoire et ça c'est le calcul. Donc vous voyez, c'est calcul, mémoire, c'est totalement enchevêtré dans le cas d'un système nerveux.
Je crois qu'on essaye de me dire que c'est un peu moins bien rangé dans mon cerveau. Il y a donc des différences entre mon intelligence et celle dite artificielle. On va les passer en revue dans un moment. Pourtant, les mots sont là. Et l'analogie avec le système nerveux est constante dans le domaine de l'informatique. D'ailleurs, on parle de réseau de neurones artificiels.
Alors, effectivement, le terme, c'est réseau de neurones artificiels parce que c'est une simplification des réseaux de neurones qu'on trouve dans le système nerveux de tous les animaux. Et les principes sont, en fait, assez simples. Les neurones sont connectés les uns avec les autres. Donc, vous avez, dans le cerveau humain, c'est 70 milliards de neurones et probablement 1000 à 10 000 fois plus de connexions. Donc, chaque neurone reçoit 1000 à 10 000 connexions d'autres neurones. Et puis, la communication entre les neurones, elle se fait avec des impulsions électriques, ce qu'on appelle des potentiels d'action, qui sont très brefs et qui sont un peu comme des 1 et des 0 dans un ordinateur. Donc une fois qu'on a des 1 et des 0, on peut coder l'information. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le cerveau, c'est codé dans ces impulsions électriques. Elles sont échangées entre les neurones. Et chaque neurone, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder toutes les impulsions qu'il reçoit et il va en faire un résumé. Il va faire une espèce de somme de toutes ces impulsions, mais en donnant plus d'importance à certains neurones plutôt qu'à d'autres. Cette importance, c'est ce qu'on appelle le poids synaptique, c'est l'influence d'un neurone sur l'autre. Et ça, l'intelligence artificielle, c'est exactement ce qu'ils font. Donc, ils modélisent ça sur ordinateur, ces impulsions électriques, cet échange d'informations sous forme d'impulsions électriques, et les algorithmes d'apprentissage essaient de trouver quelle est la bonne connectivité pour avoir le comportement désiré.
Ce poids synaptique, ça m'échappe, mais alors, complètement. Dans la vraie vie, c'est quoi ?
Imaginez un animal qui, où il y a un neurone dans le cerveau qui décide si l'animal doit s'enfuir ou pas. Pour une antilope. Ce neurone, il va recevoir de l'information olfactive, visuelle, auditive, et il va falloir que le cerveau trouve quelles sont les bonnes connexions pour que la décision de s'enfuir soit faite à bon escient. Parce qu'on ne veut pas toujours s'enfuir, ça devient épuisant, l'animal ne peut pas se reposer, donc il faut aussi s'enfuir que si c'est vraiment le cas. Et là, dans ce cas particulier, par exemple, si vous êtes dans la savane pendant la saison sèche, les informations visuelles ne vont pas être très bonnes. C'est très difficile de détecter un lion dans de l'herbe sèche. Par contre, l'odeur, ça sera essentiel. Donc il faudra que la connexion entre les neurones olfactifs, ceux qui détectent l'odeur, et ce neurone qui décide de s'enfuir ou pas, soit très forte. Par contre, l'information visuelle, pas besoin d'avoir une grosse connexion. Mais cette connexion, elle doit changer. Par exemple, pendant la saison des pluies, quand l'herbe devient verte, la couleur du lion va être plus facile à détecter pour l'animal. Donc tout d'un coup, il faudrait que l'information visuelle soit plus influente sur la décision. Donc le poids synaptique visuel, lui, va augmenter. Donc voilà, c'est ces poids synaptiques qui déterminent le calcul qui est fait par le circuit.
Ah oui, alors moi, j'aurais appelé ça l'expérience.
C'est l'expérience qui est inscrite dans le réseau lui-même et dans la connectivité du réseau.
Donc, dès qu'on aura réussi à intégrer l'expérience, l'intelligence artificielle sera plus intelligente que moi ?
Pour moi, c'est une évidence. Non seulement on va le créer, mais on va le dépasser. Donc ça, c'est juste une question de temps maintenant. On a les grands principes. Cette année, là, il y a eu un système artificiel qui a 500 milliards de paramètres, donc de ces poids synaptiques, de ces connexions. Donc, on se rapproche des chiffres du cerveau humain. Avec 500 milliards, je pense qu'on a déjà rejoint la connectivité d'un singe. Donc, au niveau de la taille de ces systèmes, ça va à toute vitesse. Et donc, oui, ça va nous rattraper, il n'y a pas de doute.
Mais alors, en fait, il ne manque pas grand-chose pour qu'elle soit plus intelligente que moi.
Alors, ce qui manque, c'est qu'aujourd'hui, c'est des systèmes qui sont... En anglais, on appelle ça « feed forward », c'est-à-dire que on rentre l'information et puis elle se propage dans le réseau et puis vous avez une réponse qui sort. Mais on sait que dans le cerveau, ça se passe pas comme ça. C'est ce qu'on appelle un système récurrent. C'est-à-dire que l'information rentre et il y a des boucles de retour tout le temps. Donc l'information se propage le long du réseau, mais l'information repart en arrière aussi. Alors pourquoi avoir de l'information qui repart en arrière ? Ben parce que ça permet en fait de créer ce qu'on appelle des modèles internes. C'est-à-dire que très vite, le système a une dynamique qui lui est propre et cette dynamique peut être utilisée pour simuler le monde extérieur. Et cette simulation du monde extérieur, elle est essentielle parce qu'elle vous permet d'anticiper ce qui va se passer dans le monde. Et c'est ça un système intelligent. Un système intelligent, c'est un système qui est constamment en train d'anticiper ce qui va se passer à l'aide de ces simulations internes. Alors ces simulations internes, vous pouvez vous-même en faire très vite l'expérience. Par exemple, vous pouvez tout à fait vous imaginer en train de pratiquer votre sport favori. Si vous jouez au tennis, non seulement vous allez simuler votre corps, mais vous allez simuler l'adversaire. Vous allez essayer d'anticiper ce qu'il va faire. Comment on fait ça? Ben pour ça, il faut qu'à l'intérieur du cerveau, il y ait des systèmes, des modèles internes. Et ces modèles, pour l'instant, on ne sait pas très bien les faire dans les systèmes artificiels.
Ah, en gros, l'intelligence artificielle ne peut pas réfléchir et comprendre le monde qui l'entoure.
Absolument, c'est ce qu'on appelle réfléchir. C'est aussi probablement ce qu'on appelle comprendre. Comprendre, c'est prédire, c'est anticiper.
Mmh. Anticiper, comprendre le monde. À la fin, je me demande à quoi ça servirait vraiment d'avoir une intelligence artificielle qui dépasse la mienne, la nôtre.
Bien tout. C'est-à-dire que vous imaginez bien que si vous avez des êtres qui ont nos capacités cognitives, voire plus, ils vont nous aider dans toutes les tâches, que ça soit, tout à l'heure on a évoqué les médecins, mais très vite il y aura des systèmes artificiels qui seront des aides au diagnostic, et puis très vite qui vont remplacer les médecins, parce qu'ils auront les capacités à faire des diagnostics. Ça servira à conduire, mais ça c'est dans quelques années, vous n'aurez plus besoin de conduire. Ça servira peut-être, c'est plus à long terme, mais même à aider psychologiquement d'autres êtres humains avec leurs problèmes personnels. Je pense qu'une intelligence artificielle psychothérapeute, c'est pas inimaginable. Et puis, malheureusement, ça va aider aussi dans les applications militaires. Il n'y a pas le moindre doute, et c'est probablement déjà en marche, que les pays vont vouloir développer des systèmes artificiels pour aller se battre à la place de nous.
Eh oui, il fallait s'y attendre. Il n'y a pas de raison qu'une intelligence artificielle soit moins destructrice que l'espèce humaine, puisqu'elle sort de son cerveau. Et elle fera des erreurs, comme nous, quoi.
Absolument, l'erreur, elle est inévitable. On est dans un monde où vous n'avez jamais toute l'information nécessaire pour prendre la bonne décision. Tout le jeu de la cognition, c'est, étant donné l'information qui est disponible à un moment donné, quelle est la meilleure décision que je puisse prendre. Mais la meilleure décision, c'est pas forcément la décision correcte. C'est juste pas possible parce que vous n'avez jamais toute l'information nécessaire. Donc, le jeu, c'est de faire des systèmes qui minimisent les erreurs. Donc, il y aura toujours des erreurs, mais dans la mesure où le système artificiel en fait moins que vous, eh bien, on va apprendre le système artificiel. Donc, le jour où les systèmes artificiels conduisent des voitures en ayant un taux d'accident qui est inférieur à celui qui existe aujourd'hui avec les humains, bah, évidemment, tout le monde va vouloir prendre le système artificiel. Donc, ça va être ça, le critère de jugement.
Et en parlant de jugement, il y a ceux que l'on émet à l'emporte-pièce. Juger des compétences intellectuelles de quelqu'un en fonction de son look ou d'un statut social en fonction de la couleur de peau, l'intelligence artificielle sera-t-elle biaisée comme les humains?
Oui, je crois que vous venez juste de répondre à votre question. C'est finalement comme les humains. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut faire mieux que les humains? Parce que les humains sont tout à fait sensibles à ces biais, mais ils sont moins sensibles. D'ailleurs, selon le niveau d'éducation des humains, on peut être plus ou moins sensible à ces biais. Donc on peut tout à fait imaginer la même chose pour les systèmes artificiels. Au fur et à mesure, on va les entraîner, ils devraient être de moins en moins sensibles à ces biais.
Résumons la situation. L'intelligence artificielle calcule plus vite que moi. Un point pour elle. Mais il faut qu'elle appréhende le monde et puisse l'anticiper. Là, j'ai un point. Pour l'instant. Je fais appel à mon expérience et mon cerveau est plutôt doué pour ça. Un point pour moi. Pour l'instant. Il faut que l'intelligence artificielle réfléchisse et qu'elle comprenne les choses. Toujours un point pour moi. Pour l'instant. Mes trois petits points, je vais les perdre bientôt. Ce n'est qu'une question de temps. Il y a donc l'intelligence sous l'angle de l'anticipation du monde, sous l'angle de l'expérience, de la réflexion. Mais la conscience dans tout ça, l'intelligence, ce n'est pas aussi une conscience?
Alors la conscience, un autre très vaste sujet. Si vous regardez dans un hôpital, comment est définie la conscience? Il y a des échelles de conscience qui sont définies. N'importe quel médecin qui a affaire à des gens qui sont dans des comas plus ou moins profonds ont une échelle de conscience. Et cette échelle de conscience, quand vous regardez comment elle est définie, c'est finalement pas si compliqué. Et on a toutes sortes de manières de tester ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des tests. Alors le premier test, ça va être de voir s'il réagit à des stimulations sensorielles toutes bêtes. Mais ça, c'est le niveau de conscience le plus bas. Au fur et à mesure où le test se complexifie, on essaye de savoir est-ce que le patient sait où il est, ce qui lui arrive, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il est capable de raisonnement. C'est ça qu'on va tester. Et finalement, on va tester son niveau d'intelligence. Et C'est pour ça qu'on en revient au modèle interne. C'est-à-dire que dans la mesure où les parties du cerveau de cette personne qui simule le monde extérieur sont fonctionnelles, cette personne sera capable de répondre à des questions, elle sera capable de raisonner, elle sera capable de nous montrer qu'effectivement elle sait où elle est et qu'elle a une compréhension à peu près correcte de la situation.
Il y a quelque temps, Lambda, l'intelligence artificielle développée par des ingénieurs de l'entreprise Google, a dit avoir peur de mourir. Est-ce que ça, c'est une preuve que les intelligences artificielles sont conscientes, comme nous, aujourd'hui ?
Pour moi, non, précisément parce que ces systèmes sont ces fameux systèmes feed-forward dont on parlait tout à l'heure, qui n'ont pas encore cette capacité de simuler le monde extérieur. Donc ça peut vous donner des réponses, mais si vous testez ce système et vous essayez vraiment de le pousser plus loin, vous allez très vite vous apercevoir qu'il ne comprend pas réellement dans le monde dans lequel il est. Il est capable de faire ces réponses qui sont extraordinaires et qui sont déjà... Je suis bluffé par la capacité de ces systèmes. J'ai dialogué avec GPT-3, qui est un autre système sur lequel vous pouvez aller en ligne et vous pouvez dialoguer avec GPT-3 et vous verrez, c'est quand même bluffant. Et en même temps, la conversation va quand même être limitée au bout d'un moment. Vous verrez que vous pouvez tromper le système très rapidement. Et on sait que c'est en particulier parce que ces systèmes, finalement, ils n'ont pas de sens commun. Il leur manque un peu ça. C'est-à-dire des choses de base qui vous paraissent évidentes pour vous, ce système, il ne le comprend pas. Il n'a pas... C'est des systèmes qui n'ont pas de notion, par exemple, de ce qu'on appelle la physique intuitive. Vous et moi, vous êtes dans le monde dans lequel vous vivez, vous savez que si vous posez un verre sur une table, est-ce qu'il va être stable, est-ce qu'il va pas être stable, comment il va tomber, tout ça, vous êtes capable de l'anticiper. C'est parce que vous avez une simulation, une fois de plus, dans votre cerveau, de l'environnement dans lequel vous vous trouvez.
Je garde donc mon point pour l'instant. Et celui-ci, il me semble que je vais le garder longtemps. Et la morale, l'éthique, tout ça. Je gagne.
Il faut se poser la question de d'où elle vient chez l'humain. Alors évidemment, il y a deux grandes hypothèses. Il y a l'hypothèse religieuse, les 10 commandements, ça nous est imposé par le... Mais il y a quand même des raisons de penser qu'il y a des bases biologiques extrêmement fortes à la moralité. Il est très clair que ça confère un avantage certain aux espèces qui ont des organisations sociales. Si vous avez une organisation sociale et que les entités de cette organisation trouvent un certain plaisir à massacrer tout le monde en permanence, cette société aura assez peu d'avenir, on est d'accord. Donc, pour la survie d'une espèce sociale, il y a des principes moraux qui doivent émerger, qui sont essentiels à cette survie. Donc, si on construit des intelligences artificielles qui aussi ont besoin d'interactions sociales avec nous, les principes moraux vont aussi émerger, parce que sinon, ça ne marchera pas.
Ça me rassure.
Imaginez même dans un contexte militaire, si on construit des robots effectivement guerriers, il faudra qu'ils s'entraident. Donc déjà, il y aura des principes moraux entre eux, et on le voit dans les espèces les plus élémentaires. Si vous regardez les abeilles, quand elles défendent une ruche, le sens du sacrifice, c'est inné chez les animaux. Ils vont se sacrifier pour le bien de la ruche. Donc là, c'est avec des animaux qui ont 2 millions de neurones. Nous, on en a 70 milliards. Les intelligences artificielles du futur, on en auront des millions de millions de neurones. Donc oui, on va avoir ces principes émerger.
Non, en fait, je ne sais pas si ça me rassure. Ces intelligences artificielles nous imitent. Mais peut-être que moi, nous, il nous reste la créativité. La créativité, sérieux, c'est vachement un truc d'humain et d'humaine, ça.
Ben, l'humain aimerait bien croire que c'est le cas. Mais on le voit déjà dans les systèmes artificiels qui sont capables maintenant de faire de la composition de musique, de générer des œuvres artistiques. Ça, c'est en train d'émerger à toute vitesse. Vous pouvez aller vous amuser sur DALL-E. DALL-E, qui est un système d'intelligence artificielle qui a été créé par OpenAI. Vous pouvez taper « je voudrais une image d'un cosmonaute sur un cheval en train de flotter dans l'espace » et il génère une image à partir juste d'une phrase. Donc la créativité, elle arrive. Mais pourquoi ? Parce que la créativité, c'est aussi, on en revient à la prédiction. Créer, c'est prédire. C'est créer quelque chose, effectivement, qui vient de tout ce que vous avez déjà vécu, mais qui n'a pas encore eu lieu. Et comme ces systèmes vont être... Au sein de ces systèmes, la prédiction va jouer un rôle essentiel. Pour moi, ça me paraît évident qu'ils vont finir par créer, oui.
Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai un peu l'impression dans cette histoire que je vais devenir obsolète dans un futur assez proche. Moi, l'humaine moyenne.
Il faut se poser effectivement la question de l'être humain. Est-ce que l'être humain est sur un piédestal qui le distingue de tout le reste de l'univers, ou est-ce qu'il n'est que aujourd'hui effectivement le produit le plus sophistiqué qui est produit l'évolution, mais un produit intermédiaire dans une chaîne d'évolution qui va continuer? Pourquoi on s'arrêterait à nous? Qu'est-ce qui justifierait qu'on s'arrête à nous? Voilà, et l'évolution est en marche. Elle était autrefois biologique. Là, depuis une cinquantaine d'années, elle va devenir artificielle. On est aussi en train de modifier notre génome. Je pense qu'il faut tous, ensemble, qu'on réfléchisse comment on veut que cette évolution se déroule. Mais l'arrêter, ça me paraît d'abord complètement naïf. Et ensuite, est-ce que c'est véritablement justifié? Est-ce pourquoi est-ce que nous avons le droit de dire, voilà, ça s'arrête à nous?
Je ne sais pas, en effet. Je ne sais pas non plus si je suis à l'aise avec tout cela. J'essaie juste de comprendre la complexité du monde qui m'entoure. Et peut-être que l'intelligence artificielle se pose moins de questions que moi. Et peut-être qu'elle n'a pas le même plaisir que moi à partager les réponses que je collecte au fil de mon chemin.
Pourquoi je stresse ? Est-ce que je vis avec un homme de Néandertal ? Qu'a fait cette fourmi dans ma cuisine ? Comment ma peau se répare ? Quelle est cette toxine qui a contaminé mon repas ? Quelle est cette voix dans ma tête ? Qui m'enverra la prochaine question de microscience ?
Si cet épisode vous plaît, écoutez-le jusqu'au bout, parce qu'il y a encore un truc que vous apprendrez sur moi, l'intelligence artificielle. Et abonnez-vous sur Apple Podcasts, Play RTS, ou Spotify. Sinon, je ne serai pas triste. Mais les humains qui ont œuvré à cet épisode le seront. Si vous souhaitez entrer en communication avec l'autrice de ce podcast, Uma Camis...
Ce machin sait pas lire mon nom. Uma Camis.
Excusez-moi, Uma Camis, journaliste scientifique, écrivez-lui sur microscience@rts.ch. Microscience en un seul mot et au pluriel. D'autres représentants de l'espèce humaine ont participé à ce sujet sur moi. Jérôme Nussbaum, réalisateur et habilleur musical, il paraît que je n'ai pas encore son regard bienveillant. Camille Dupont-Lahitte, coproductrice, dont le bon sens fait-il tes neurones artificiels.
Il y a quand même un dernier truc. On est dans une crise climatique et à la veille d'une crise énergétique. L'intelligence artificielle, elle va être plus efficace que moi en termes d'énergie ?
C'est peut-être une des plus grosses faiblesses aujourd'hui de l'intelligence artificielle, parce que pour faire tourner un super ordinateur, il faut, pour les super ordinateurs du futur, il faudra une centrale nucléaire juste à côté pour fournir l'énergie. Donc c'est des gigawatts, alors que votre cerveau consomme 20 watts. 20 watts, c'est l'ampoule la plus faible dans votre appartement. Donc, ça coûte rien de faire tourner un cerveau. Et ça, on ne sait pas encore comment faire ça. On commence à y travailler de nouvelles architectures de puces électroniques où la consommation est en train de baisser. Ce qui est fascinant avec ça, c'est que pourquoi ça consomme un ordinateur ? Parce que les 1 et les 0, ça se fait avec un 1, c'est 1 volt, et un 0, ben c'est 0. Donc, 1 volt, c'est assez énorme. Dans le cerveau, c'est en millivolts que ça se passe. Et pas en volts. Donc c'est un facteur déjà de 1000 en termes de consommation d'énergie. Et c'est ça qu'on essaie de comprendre. Par contre, pourquoi on a pris un volt pour un ordinateur ? Parce que ça permet de réduire la probabilité d'erreur à pratiquement zéro. Donc l'ordinateur, quand il tourne sur votre Airbus A380 ou pendant vos vacances, il fera pas d'erreur. Et c'est ça que vous voulez. Vous voulez surtout pas qu'il se trompe. Vous voulez pas qu'un 1 se transforme en 0. Dans le cerveau, c'est différent. Le cerveau est construit pour être extrêmement robuste aux erreurs. Donc, il se permet de baisser les volts qu'on utilise pour la communication. Il y aura des erreurs, mais il y a tout système de correction d'erreurs en permanence pour éviter que vous fassiez des erreurs qui soient mortelles. Mais on va en faire. Mais voilà, donc c'est ça ce jeu. C'est-à-dire qu'il faut diminuer la consommation, mais sans que le taux d'erreur explose.